France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, vaccination, l'appel de Jean Castex dans les Landes. 200 000 premières doses par jour en ce moment.
C'est trop peu, on a fait beaucoup mieux. Et on peut et on doit faire beaucoup mieux.
Appel en particulier aux soignants, il laisse planer la menace d'une vaccination obligatoire. Appel lancé depuis les Landes, où un foyer est apparu dans une maison de retraite, 29 personnes touchées, 6 soignants, 5 n'étaient pas vaccinés. Les maisons de retraite, après un an et demi de pandémie, les familles, les visites, la vaccination, la fatigue du personnel, toutes vos questions et témoignages dès maintenant au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter. Nous serons avec la déléguée générale du syndicat des maisons de retraite privées. La Hongrie de Viktor Orban, une fois de plus en accusation en Europe, la loi qui réprime les messages sur l'homosexualité au menu du sommet européen à partir d'aujourd'hui. La présidente de la Commission de Bruxelles a préparé le terrain.
La loi hongroise est une honte. Cette loi instaure clairement une discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Et elle va à l'encontre de toutes les valeurs fondamentales de l'Union européenne.
Angélique Bois en direct de Bruxelles tout à l'heure. Dans l'actualité encore, ce sont sans doute des tirs d'armes à feu. Un TGV touché par des projectiles hier tout près de la gare de Marseille. Fini l'indépendance pour les éditions de minuit. Elle passe dans le giron de Gallimard. Comment doper la participation au régional? Concours d'idées entre gouvernement, parti et candidat à 3 jours du second tour. Et puis les Bleus, premiers de leur groupe, qualifiés mais pas totalement convaincants. Ils joueront contre la Suisse en 8e de finale de l'Euro. Quel bilan après la phase de poule? On en parle avec le consultant foot de Radio France, Jérôme Alonso. Et vos rendez-vous dans le 13-14, Jean Lebrun, réflexion sur le canton dans le vif de l'histoire. 2e tour des départementales dimanche. Et c'est le cycliste Guillaume Martin qui est avec Frédéric Pommier juste avant le départ du Tour de France. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
C'est depuis Mont-de-Marsan, dans le département des Landes, où un foyer de Covid touche 29 personnes dans une maison de retraite, variant Delta aux 2/3 au moins. Dans les Landes, que Jean Castex a voulu lancer un nouvel appel à mobilisation ce matin. Mi-mai, sur le seul site Doctolib, il y avait 350 000 rendez-vous de première dose de vaccination par jour. On en est assez loin désormais, d'où l'appel du Premier ministre.
Les prises de rendez-vous pour la première vaccination sont en décélération. Ça fait 2 ou 3 jours où nous vaccinons, en première vaccination, 200 000 personnes par jour. C'est trop peu. On a fait beaucoup mieux. Et on peut et on doit faire beaucoup mieux. Ayez peur du virus, n'ayez surtout pas peur du vaccin. Je le dis en particulier aussi chez nos soignants. Et si je le dis ici, ce matin, à Mont-de-Marsan, c'est qu'il y a eu, dans un EHPAD des Landes, à nouveau un cluster. Il est impératif que, en particulier, les soignants, les personnels de ces EHPAD soient tous vaccinés, d'ici la fin du mois d'août. Là aussi, c'est un appel solennel et, comme l'a dit le ministre hier au Sénat, à défaut de quoi, nous devrions évidemment prendre nos responsabilités.
Jean Castex qui laisse planer la menace d'une vaccination obligatoire pour les soignants. Il relève que dans le cluster dont il parlait dans les Landes et dont on reparle nous dans un instant, sur les 6 soignants contaminés, 5 n'étaient pas vaccinés. La campagne de vaccination qui patine, illustration, 2 départements où elle est réellement en retard, Guillaume Fariol, c'est la Drôme et l'Ardèche.
La moitié des habitants de Drôme-Ardèche n'ont reçu pour l'instant aucune dose de vaccin. Pas difficile donc de trouver des non-vaccinés dans les rues de Valence. Il y a ceux qui n'ont plus peur du Covid.
Les chiffres sont de plus en plus bons, on réouvre tout. Du coup, on se dit, il y a moins de chances qu'au début que je l'attrape.
Ceux qui s'estiment suffisamment protégés comme ça.
J'ai mon masque, je fais très 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 attention.
Sans oublier les vaccino-sceptiques, toujours bien là.
C'est beaucoup trop tôt et je pense qu'on a tout le temps de faire un vaccin en attendant d'avoir des distanciations sociales et toujours le port du masque.
Résultat, le nombre de premières injections chute. 14 000 la semaine dernière en Drôme-Ardèche contre plus de 40 000 en une semaine à la mi-mai, le pic. Le rythme ralentit dans plusieurs centres de vaccination, par exemple au Vence. Sébastien Gadille est l'adjoint en charge de la santé dans cette commune du Sud-Ardèche.
C'est une chute libre. Il y a beaucoup de rendez-vous qui sont libres, donc on fait beaucoup de secondes doses. Mais en primo-vaccination, avec Pfizer, on n'a plus grand monde parce que les gens, il n'y a plus d'attrait au vaccin.
De nombreux créneaux de vaccination sont aussi disponibles dans les centres d'Annonay et de Montélimar.
Le reportage Guillaume Fariol, France Bleu, Drôme, Ardèche. Alors si Jean Castex et Olivier Véran étaient dans les Landes ce matin, c'est parce que c'est le seul département de France où le taux d'incidence est supérieur au seuil d'alerte de 50-51. Via les Landes, la menace du variant Delta se manifeste un peu plus clairement. Ce foyer, donc, dans une maison de retraite de Ponton-sur-l'Adour, 29 personnes contaminées. C'est du Delta aux deux tiers au moins. Le Premier ministre présente un plan d'action renforcé pour ce département. Lou Bourdi, France Bleu Gascogne.
Jean Castex vient de le dire, il faut mettre le paquet sur le département et pour ça, il y a trois axes, trois clés à mettre en place pendant une semaine. La première, c'est la multiplication des tests, plus 14 000 tests distribués en une semaine dans les communes landaises, mais aussi dans les lycées. Le Premier ministre insiste, il faut se faire tester pour éviter la propagation du variant dans le département, que chacun respecte bien sûr les consignes, les règles d'isolement. C'est capital, dit Jean Castex. Après les tests, il y a la vaccination, c'est le deuxième point. On est ici dans les Landes, l'un des départements en tête pour le vaccin, mais ça n'empêche pas le variant de s'infiltrer, dit le Premier ministre, car on n'a pas atteint l'immunité collective. On passera en une semaine de 40 000 doses disponibles à 60 000 doses pour les 7 jours à venir. Et puis le troisième axe, au bout des 7 jours, on fait le point, on fera le point. Le Premier ministre l'assume. S'il n'y a pas d'amélioration, on pensera alors à des mesures complémentaires. Le 1er juillet, vous le savez peut-être, c'est l'assouplissement des jauges, mais les Landes pourraient donc en être privées.
Et rappelons que au-delà de cette alerte, la carte de France du Covid est en vert. Moins de 10 000 malades à l'hôpital, 1 500 en soins critiques. Taux d'incidence moyen du virus 24. Le variant Delta représente 9 à 10% des contaminations. C'est quasiment 100% en Grande-Bretagne où ce variant a contraint le gouvernement à reporter la dernière étape du déconfinement. Dans l'actualité en Corse, cela s'est passé hier soir vers 21h à Marseille. Un ou des tirs contre un TGV. Nelly Asena, c'était à l'arrivée du train en gare Saint-Charles.
On est à 2-3 km de l'entrée en gare à la sortie du tunnel. Ce train Paris-Marseille avec ses passagers à bord est la cible de plusieurs tirs d'armes à feu. La police signale plusieurs impacts de balles sur le TGV, la locomotive mais aussi sur les rames. La SNCF parle d'au moins un tir sur une vitre qui n'a pas été brisée. Le conducteur d'ailleurs s'en est aperçu immédiatement. Il a pu rejoindre la gare et prévenir les forces de l'ordre. Aucun passager n'a été blessé. Tout le monde a pu quitter le train sans problème. 4 autres TGV ont été retardés entre 21h et 23h, le temps des constatations des forces de police. Bien sûr, une enquête est ouverte pour déterminer l'origine des impacts, le lieu précis où ça s'est passé, et puis essayer d'identifier le ou les auteurs de ces tirs.
Un enfant de 11 ans, un mineur isolé, s'est noyé dans le Paillon hier après-midi. Enquête ouverte par le parquet de Nice, elle est confiée à la gendarmerie. Le jeune garçon participait à une sortie loisir avec 6 autres enfants.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
L'équipe de France de foot a encore réuni énormément de monde devant la télévision hier. Plus de 15,5 millions de téléspectateurs devant France-Portugal. Une première mi-temps très moyenne, une deuxième nettement plus intense. Et les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale. Ce sera face à la Suisse, lundi 21h à Bucarest. Ils terminent donc premier de leur groupe, qui était très relevé avec le Portugal et l'Allemagne. Mais sans totalement convaincre, une belle entrée de compétition face à l'Allemagne, puis deux nuls contre la Hongrie et le Portugal. Alors quel bilan de cette première partie d'Euro pour les Bleus et pour les autres? On en parle avec Jérôme Alonso, ancien gardien du PSG et consultant foot de Radio France. Bonjour Jérôme Alonso.
Bonjour Bruno.
Bilan de ce premier tour pour vous côté français, Jérôme?
Écoutez, groupe de la mort, hein, vous l'avez dit, ouais. Bruno, donc compliqué après l'entame qui nous a laissé plein de promesses. Après, c'est vrai, plusieurs contre la Hongrie à domicile, chez eux, devant 70 000 spectateurs fous furieux, fous de joie. Et puis le Portugal, pour moi, un des favoris de l'épreuve. Donc c'est vraiment le verre à moitié plein, à moitié vide, difficile. Mais encore une fois, l'objectif, c'était finir premier du groupe. Ils ont fini premier du groupe. Je veux penser que cette équipe va monter en régime encore au fur et à mesure des jours qui viennent.
Et c'est vrai que les phases de groupe, elles sont rarement enthousiasmantes.
Oui, c'est vrai. Et nous, on a eu de la chance. Ouais. Nous, moi, j'ai vu des matchs, c'était des véritables punitions à regarder, alors que nous, on a eu que des matchs sympas, c'est vrai. Donc, c'est aussi bien pour la France, pour son mental, d'avoir eu quasiment que des gros matchs à jouer. Encore une fois, la Hongrie est une nation mineure, mais dans un stade incandescent, avec 70 000 personnes et menée au score. Donc, il n'y a pas eu de match facile. Ça a été compliqué dès le début, et je pense que ça va être très, très bien pour la suite de la compétition.
Est-ce que Benzema s'est débloqué hier avec son doublé?
Ça s'est vu. Et puis il y a une scène qui est incroyable, c'est que c'est Griezmann qui doit tirer le penalty. Il donne le ballon. Ça veut dire aussi que ce groupe a vraiment une dimension émotionnelle très très forte au sein du groupe, beaucoup d'empathie. Et puis après, il y a le cran de Karim Benzema qui prend ce penalty à la 46e minute, à un moment donné où les Bleus sont très très mal dans ce match. Je pense même que si ce penalty est raté, ça peut changer beaucoup de choses dans ce taureau. Mais il l'a mis. Et puis ensuite, il met un autre but, complètement transformé après en seconde période, Karim Benzema. Pas Pavard d'effort, mais enfin récompensé sur le plan des chiffres.
Est-ce que la défense vous inquiète? Pavard absent hier, Hernandez et Lucas Digne en difficulté, voire touché physiquement. Est-ce qu'on va avoir un souci avec la défense?
Forcément, il n'y a plus d'arrière-gauche de métier dans cette équipe-là. Donc, Pavard qui a pas donné toutes les garanties à droite et en plus qui a pris un choc énorme à la tête contre l'Allemagne. Alors la charnière, ça va, mais sur les côtés, ça pose problème. Est-ce que Kimpembe va être décalé à gauche? On sait qu'il était arrière gauche de formation, gamin, et voir Jules Koundé dans l'axe, là où il est plus à l'aise. Donc, les solutions, elles existent, mais il y a un fait qui est inéluctable, c'est que la France n'a plus d'arrière gauche de métier.
Elle est toujours favorite, la France, ou pas?
Oui. À mon sens, oui, bien sûr. Alors, j'ai vu l'Italie monter en régime, j'ai vu la Belgique monter en régime, j'ai vu le Portugal nous accrocher, j'ai vu les Pays-Bas aussi qui m'ont surpris. Mais quand je vois les joueurs qu'on a et quand je sens que cette équipe n'est pas encore à 100%, ça laisse de belles promesses. Donc, oui, je mets toujours la France favorite. D'une courte tête, comme on dit dans le monde hippique, mais une favorite quand même.
Bon, vous en avez dit un mot déjà des autres équipes. Les tops et les flops de ce début de compétition, l'équipe que vous retenez, dont vous dites « Ah, elle est forte, elle va être une menace importante pour la France. »
Ouais, Italie, pour la constance, le travail de Mancini depuis 2 ans, parce que les gens découvrent, enfin, les gens qui ne sont pas spécialistes, et c'est bien normal, il y en a plein, découvrent l'Italie. Mais moi, je commente pas mal de matchs d'Italie depuis 2 ans, et c'est une équipe qui est en vraie progression, avec un joueur qu'on connaît bien en France, Marco Verratti, du PSG, en chef d'orchestre. Une génération qui me plaît beaucoup, 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 avec un excellent gardien aussi, Didier Donnarumma. Pour le travail de Mancini et pour ce qu'elle confirme dans ce grand rendez-vous, je mettrai l'Italie dans mes tops.
Et l'équipe décevante?
L'équipe décevante...
Sachant que tous les grands sont qualifiés pour les huitièmes.
Je vais quand même dire l'Allemagne, parce que même s'il y a eu ce carton un peu inattendu contre le Portugal, elle passe hier d'un cheveu, elle passe presque par miracle. Et c'est la fin du cycle pour Joachim Löw. Et il était dommage qu'il termine comme ça. Mais cette grande nation de football est vraiment passée très très près de la catastrophe hier.
Alors qu'elle avait déjà été éliminée au premier tour du Mondial. Merci beaucoup Jérôme Alonso, et vous me fournissez la transition idéale pour la suite du journal. Hier, l'Allemagne s'est donc qualifiée in extremis après un match nul 2-2 face à la Hongrie à Munich. Munich, ville pavoisée aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT, homo, bi et trans. Des petits drapeaux arc-en-ciel dans le stade, les mêmes couleurs sur la façade de l'hôtel de ville. Tout cela en signe de protestation contre la loi qui doit entrer en vigueur le 1er juillet en Hongrie, qui était donc l'adversaire de l'Allemagne hier. Cette loi interdit la diffusion de messages que le gouvernement considère comme des promotions de l'homosexualité assimilées à la pédophilie. Jusqu'où ira l'interdiction de ces contenus? Nos confrères du Monde racontent. Une chaîne de télé hongroise se demande si elle pourra encore passer le film Bridget Jones. Les éditeurs se demandent ce que vont devenir les livres d'auteurs comme Arthur Rimbaud. On en est là en Hongrie. Alors après ces lois sur l'immigration, l'indépendance de la justice ou des médias, voilà donc à nouveau le pays de Viktor Orban dénoncé en Europe. 17 partenaires européens font état de leurs préoccupations. Très peu de pays de l'Est dans cette liste. Et ça ne s'arrête pas là. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
Angélique, en direct de Bruxelles, le sujet est mis au menu du Conseil européen qui s'ouvre en ce moment à Bruxelles.
Et oui, et cela devrait assombrir l'ambiance, en particulier ce soir au dîner où il est prévu d'aborder la question. Certains dirigeants vont s'adresser les yeux dans les yeux à Viktor Orban, a précisé un diplomate européen. Alors ce ne sera pas la première fois qu'il y a une explication de ce type avec le Hongrois autour de la table du Conseil, où les 27, on le rappelle, sont tout seuls, sans leur entourage. Mais cette fois, il y a une émotion très forte, assez inédite, dit une autre source, car on touche aux valeurs humaines et à l'éducation. Une très grande majorité des États, 17, vous l'avez dit, montent aussi au créneau par écrit, et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a elle aussi eu des mots très sévères.
La loi hongroise est une honte. Cette loi instaure clairement une discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Et elle va à l'encontre de toutes les valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est la dignité humaine, c'est l'égalité, donc on ne fera pas de compromis avec ces principes.
À son arrivée au Conseil, hein, il y a une dizaine de minutes, le président hongrois est resté droit dans ses bottes. Le sujet n'est pas à l'ordre du jour. A-t-il lancé un brin bravache aux journalistes avant d'expliquer que cette loi ne vise pas l'homosexualité, dont il dit défendre les droits? Il affirme que ses partenaires ne l'ont pas vraiment lu, cette loi. Ça promet.
Angélique Bois en direct de Bruxelles. Voilà en tout cas un sujet de plus dans un Conseil européen comme d'habitude au menu très chargé. Covid et contrôle des frontières, migration et relations avec la Turquie, peut-être une aide de près de 6 milliards d'euros pour les réfugiés syriens en Turquie, en Jordanie et au Liban. Les relations avec la Russie aussi au menu. Les 27 pourraient acter la reprise des sommets avec la Russie. Les relations se dégradent régulièrement depuis le conflit avec l'Ukraine il y a 7 ans. L'Union européenne, dit Angela Merkel, doit nouer un contact direct avec la Russie et Vladimir Poutine. Créer des mécanismes pour répondre conjointement aux provocations et attaques hybrides de Moscou. Poutine est favorable à une reprise du dialogue, fait savoir le Kremlin. Ce serait une initiative dangereuse, selon l'Ukraine. Une page se tourne dans un beau livre à la couverture blanche, avec un liseré bleu nuit et deux étoiles. Ces couvertures, ce sont celles des éditions de Minuit, la maison qui a publié Jean Vercors, Samuel Beckett, Marguerite Duras et aujourd'hui Jean Echenoz. Bonjour Jacqueline Pétrose.
Bonjour. Bruno.
Les éditions de Minuit vont intégrer le groupe Gallimard.
Alors en 1959, Gaston Gallimard écrivait à Jérôme Lindon « Je vous envie parfois d'être libre et de savoir l'être ». Pour Gallimard, c'est donc une belle opération. Le catalogue de Minuit est prestigieux. Irène Lindon, qui préside la maison depuis 2001, a dans le communiqué commun expliqué qu'avec l'âge venant, elle voulait mettre ses collaborateurs et ses auteurs à l'abri. Minuit sera donc adossé au groupe Madrigal, qui compte déjà Flammarion, POL, De Noël, La Table Ronde ou Mercure de France. Alors les éditions de Minuit, c'est une histoire mythique. Fondée en pleine Seconde Guerre mondiale en 1941 par Jean Brûlé et Pierre Delescure, Minuit publie clandestinement en 1942 son premier livre, vous l'avez dit, Le silence de la mer. Vercors, c'est le pseudonyme de Jean Brûlé. Jusqu'à la Libération, Sous le manteau, sont publiés avec sous pseudo, des textes de Mauriac, Éloire, Aragon, Pollan, Gide et Steinbeck. En 1948, Jérôme Lindon reprend les rênes et publie les trois manuscrits de Beckett qui vont donner bien sûr lieu à toute une série ensuite de publications pour Beckett. Dans les années 60 s'ouvre la page du nouveau roman avec Robe Grillet, Sarraute, Butor et puis c'est l'arrivée de Marguerite Duras, toujours l'une des plus grandes ventes de la maison. On continuera à trouver les belles couvertures de Minuit dans les librairies. Avec l'annonce commune de ce rachat, Antoine Gallimard a promis de maintenir l'indépendance éditoriale de ce qui est désormais une de ses filiales. Et puis il y a quand même quelques stratégies littéraires qui sont en jeu, il faut bien le dire. On pourrait en particulier voir l'arrivée possible de Beckett dans la Pléiade, ce que Irène Lindon, jusqu'à présent, a toujours refusé.
Et à propos de littérature, saluons l'entrée du dernier prix du Livre Inter dans la liste des 10 meilleures ventes de l'Express. Hugo Lindenberg pour Un jour, ce sera vide. Le succès en librairie du prix du Livre Inter se confirme. Le jury du Festival de Cannes sera majoritairement féminin cette année. 5 femmes sur 9. Notons la franco-sénégalaise Mati Diop, Leila Bekti, Mélanie Laurent ou encore Mylène Farmer. Chez les hommes, Tahar Rahim et Kléber Mendoza-Filho, 24 films en compétition officielle cette année à Cannes. 4 réalisatrices femmes. Le festival commence le 6 juillet. Le taux d'abstention au second tour des régionales sera-t-il moins élevé qu'au premier? Pas sûr. Si l'on en croit un sondage de l'Institut IFOP aujourd'hui, avez-vous l'intention d'aller voter? 64% des personnes interrogées répondent non. Le taux d'abstention était de près de 67% dimanche. Alors comment inciter les électeurs à se déplacer, les jeunes en particulier, très nombreux à avoir déserté les bureaux de vote dimanche? Eh bien entre le gouvernement, les partis et les candidats, c'est la foire aux initiatives, Élodie Forêt.
L'équipe de Marlène Schiappa y travaille depuis dimanche soir. Une campagne du gouvernement sur les réseaux sociaux à destination des jeunes. Des vidéos au ton léger, pas question, nous dit-on, de dramatiser l'abstention, mais de faire passer ce message. Voter, ça prend 15 minutes, aussi rapide qu'une mi-temps de match de foot. Totalement compatible avec un dimanche déconfiné. Les réseaux sociaux investis aussi par les LR avec ce visuel. Dimanche, avec mes potes, je vote. Mais le parti compte surtout sur ses militants. Un mail leur a été envoyé pour leur demander de ne pas relâcher leurs efforts. Plus original, en Centre-Val de Loire, la campagne aérienne du RN Aleksandar Nikolić. Un avion sillonne actuellement les airs de la région avec une banderole « Dimanche, je vote RN ». Le Rassemblement national qui a tout intérêt à mobiliser puisque dimanche dernier, selon plusieurs enquêtes, ce sont ses électeurs qui se sont le plus abstenus.
Et des ratés dans l'organisation des élections n'ont pas aidé à motiver les électeurs. Le Sénat a officiellement lancé ce matin une mission d'information sur les ratés dans la distribution des professions de foi des candidats avant les régionales et départementales. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ces photos de documents éparpillés en pleine nature. Selon La Poste et l'autre prestataire, l'entreprise privée Adrexo, 9% des plis ne sont pas arrivés à destination. Problème d'accès aux immeubles, d'adresses erronées. Selon l'un des sénateurs qui ont déjà entendu hier le ministre de l'Intérieur, 5 millions de Français n'ont pas reçu les documents électoraux. 5 millions sur un peu moins de 50 millions d'électeurs inscrits sur les listes. Particulièrement critiqué Adrexo, qui à 3 jours du second tour demande de l'aide à La Poste. Manuel Ruffez, le groupe public va reprendre la distribution de 5 millions de plis.
Et oui, en conscience et en entreprise responsable, écrit Adrexo dans un communiqué, tout doit être mis en œuvre pour acheminer dans les meilleures conditions la propagande électorale dans ces délais particulièrement contraints. Alors voilà, effectivement, Adrexo se déleste de 5 des 44 millions de plis dont la société avait la responsabilité au premier tour. Et depuis ce matin, les responsables d'Adrexo et de La Poste sont en réunion pour caler cette logistique de dernière minute. Quelle zone, quelle organisation? Il reste 2 jours et demi, la distribution pouvant encore intervenir la veille du scrutin. On sait qu'Adrexo avait en charge 7 régions, soit 51 départements. Adrexo, ce spécialiste de la distribution de publicité, craint, et c'est encore inscrit dans le communiqué, un désistement d'une partie de son personnel après le discrédit porté sur leurs activités ces derniers jours. Ce sont bien les termes employés. C'est en tout cas un défi pour La Poste qui affirme que ses facteurs seront mobilisés pour le meilleur déroulement possible du second tour des élections.
C'est l'homme qui a fait le succès de BFM. Alain Veil prend du recul, le fondateur du groupe Next Radio va quitter le 1er juillet ses fonctions de PDG d'Altis et de SFR, ainsi que son poste de président d'Altis Média. Lui, c'est l'homme qui a fondé l'un des logiciels antivirus les plus célèbres. John McAfee s'est suicidé hier dans une prison en Espagne. Il était poursuivi pour fraude fiscale. Portrait de cet homme qui avait 75 ans, Béatrice Duguay.
Je suis excentrique, courtois, attentionné, gentil, plein d'humour. C'est ce que John McAfee disait de lui-même. Il aurait pu ajouter sulfureux. Carrière commencée à la NASA, très très brièvement. Développeur de logiciels ensuite. Développeur de systèmes d'exploitation. Il s'intéresse à la manière de détruire les virus dans les années 80. Pour finalement créer donc son entreprise de logiciels antivirus qui lui permet de faire fortune. Il n'est plus propriétaire de McAfee depuis 2010. Il s'est lancé dans la crypto-monnaie, sorte de gourou qui affirme être capable de gagner 2 000 $ par jour. Il s'installe au Belize, petit état d'Amérique centrale, où il vit avec une jeune fille de 17 ans, où il est inquiété pour trafic de drogue, détention d'armes, puis pour le meurtre de son voisin. Nouveau déboire en 2015 quand il est arrêté aux États-Unis cette fois, en possession d'armes et sous stupéfiants. C'est le fisc qui le rattrape ensuite. La justice américaine lui reproche d'avoir dissimulé biens immobiliers, yachts, voitures, sa fortune liée aux crypto-monnaies en fait. Il faut dire qu'il s'est vanté de ne pas payer d'impôts depuis 8 ans. Mandat d'arrêt international lancé pour fraude fiscale. Donc, il est arrêté en octobre dernier à l'aéroport de Barcelone. Fin de parcours.
Encore un personnage singulier, Britney Spears. Elle veut récupérer sa vie. Elle s'est adressée à une cour de Los Angeles hier pour demander la fin du régime de tutelle auquel elle est soumise depuis 2008, à l'époque difficulté psychologique. Et c'est la première fois qu'elle parle aussi librement de sa situation. « Je ne suis pas là pour être l'esclave de qui que ce soit », dit la chanteuse Loïc Piala.
Longtemps silencieuse sur sa situation, Britney Spears a multiplié les révélations hier. Elle veut un enfant, mais ses tuteurs refuseraient qu'elle retire son stérilet. S'exprimant au téléphone, parlant parfois très vite, elle a confié être déprimée, pleurer tous les jours et ne pas arriver à dormir. « Cette tutelle me fait beaucoup plus de mal que de bien. Je n'ai rien fait pour mériter ce traitement », a résumé la pop star. Traumatisée, en colère, la chanteuse de 39 ans a demandé à la cour d'être libérée du régime de tutelle pour profiter elle-même de sa fortune estimée à 50 millions de dollars, mais aussi pouvoir simplement passer du temps en voiture avec son petit ami. Spears n'exclut pas non plus d'attaquer son père en justice, un homme qui, dit-elle, adorait la contrôler et a exploité sa vie. La juge en charge de l'affaire n'a encore rien décidé, mais ce témoignage et son écho dans le pays risquent d'accentuer la pression. Des dizaines de fans ont défilé à l'extérieur du tribunal, répétant le même slogan que depuis des mois, « Free Britney, libérez Britney ».
On les a tellement attendus. La saison des festivals a commencé. Le printemps de Bourges vibrait hier soir pour Jeanne Haddad au théâtre Jacques Coeur. C'était l'une des créations du festival. Hommage à Prince, le chanteur idole de Jeanne Haddad. Elle a décidé d'adapter son répertoire en jazz. Ce sera très certainement un des temps forts de cette édition du printemps. Mathieu Culeron.
Jeanne Haddad, accompagnée de son ami pianiste Bruno Ruder, revisite entièrement le répertoire de Prince en version jazz, une prestation époustouflante de sentiments et de liberté, le tout avec une précision qui marque les esprits ici à Bourges. Pourtant, lorsque les festivals demandent cette création à la chanteuse, la réponse est catégorique.
La réponse était non. Je l'ai dit deux fois, trois fois. Ils ont quand même insisté jusqu'au moment où j'ai eu l'idée de faire ça avec Bruno Ruder, qui est pianiste et avec lequel je travaille depuis le conservatoire. Toi. À partir du moment où j'ai eu cette idée-là, j'ai pu envisager de commencer à dire oui.
Prince est rentré dans la vie de Jeanne Haddad à l'adolescence, une véritable figure tutélaire, presque mystique.
Et il m'a vraiment aidé à me construire, vraiment. C'est une figure quasi parentale en fait, il y a un truc un peu de cet ordre-là, donc c'est un peu sportif, mais en fait c'est exactement ça que je voulais faire avec ce répertoire-là. Qu'on puisse en fait y trouver notre place, parce que sinon c'était perdu d'avance si on était écrasé par la figure de ce mec qui est si immense.
Le Kid de Minneapolis, revisité par Jeanne Haddad, une prestation qui restera dans les mémoires du printemps. Un show à retrouver à la rentrée en septembre à Jazz à la Villette.
Voilà pour ce compte-rendu de Mathieu Culeron. Il nous reste à voir le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore des orages dans l'Est, c'est plus calme ailleurs.
Oui, de Rhône-Alpes jusqu'au nord-est, on a en effet encore des averses et des orages, parfois forts avec de la grêle et du vent, donc soyez prudents. Du sud-ouest vers le massif central et les Ardennes, là ça s'arrange, les averses s'espacent, de petites éclaircies vont se dessiner. Et puis en allant vers l'ouest et le nord, là les éclaircies sont belles, hein, surtout de la baie de Seine jusqu'à la côte d'Opale dans l'après-midi. Plus de nuages tout de même sur la pointe bretonne et puis l'heure qui reste toujours sous surveillance pour la vigilance orange crue. En Méditerranée, c'est du soleil avec des températures estivales autour de 28 degrés jusqu'à 30 en Corse. Et puis ailleurs, il fait seulement 18 à 23 degrés. Et puis demain, ça sera plus agréable. De belles éclaircies, une dégradation nuageuse gagnera le nord-ouest, la région parisienne, le nord de la Seine. Elle donnera de la pluie quand même près de la Manche. Les 28 degrés, c'est pas pour tout de suite à Paris.
Merci Élodie Calac, Météo France. Nous reparlons sport. Tout de suite.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Sport et politique comme chaque jeudi dans un monde de sport. Bonjour Édouard Marguier.
Bonjour.
Et cette question, que peut imposer l'UEFA, l'instance du foot européen, aux nations qui participent, aux États qui accueillent les matchs? Les sujets ne manquent pas cette année, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre le racisme. Sur le papier, Édouard, l'UEFA est apolitique, mais c'est une neutralité qui est très politique en fait, hein, c'est ça?
Le Rainbow Gate en est la preuve, cette polémique déclenchée par la ville de Munich. Avant le match, Allemagne-Hongrie, la municipalité, je vous le rappelle, voulait éclairer son stade aux couleurs de l'arc-en-ciel de la communauté LGBT afin de protester contre une loi discriminante votée par le Parlement hongrois. Refus de l'UEFA au nom de cette neutralité politique. Mais les réactions ont été très nombreuses et notamment celle de la France. À juste titre, cette instance, selon l'Élysée, fait la promotion du respect des droits des minorités en y renonçant. C'est un acte politique qui est pris sur le terrain. Cette rencontre s'est terminée hier soir sur un score neutre, mais qui a condamné sportivement la Hongrie, puisque le pays est éliminé, la loi du sport sans doute. Sur le genou à terre mis par les joueurs pour dénoncer le racisme, mouvement observé dans de nombreux sports à travers le monde, l'UEFA a d'abord exprimé sa perplexité, avant d'estimer que ce geste n'avait aucune signification politique, laissant aux joueurs donc la liberté d'agir. Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, lui, aurait préféré que l'Union du foot européen les y encourage.
Autre exemple d'apolitisme très politique, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, Edouard.
L'UEFA a tout fait pour éviter une confrontation entre les deux équipes et s'est même arrangé avec le hasard du tirage au sort. L'instance a mis d'office les deux pays dans deux groupes différents et doit respirer puisque la Russie est éliminée. La rencontre Russie-Ukraine qui aurait pu avoir lieu en quart de finale ne se fera pas. Conflit qui s'est d'ailleurs exprimé sur les maillots de l'Ukraine. L'UEFA a fait enlever la mention « Gloire à nos héros » sur les maillots des Ukrainiens sur demande de la Russie. Une mention trop politisé, a jugé l'instance.
Mais l'influence de l'UEFA se voit aussi dans les règles sanitaires.
Les pays qui accueillent les matchs sont officiellement seuls maîtres à bord sur cette question. Mais l'UEFA s'en sert pour faire plier les gouvernements trop prudents, comme l'Angleterre. Elle a demandé au gouvernement anglais d'assouplir ses règles en vue des demi-finales et de la finale au stade de Wembley à Londres, menaçant de délocaliser les rencontres du dernier carré à Budapest où les mesures sont très souples. Le stade Puskás est le seul à être rempli à 100%. Ouais. On l'a encore vu hier soir avec le match des Bleus. Londres a accepté. La jauge passe de 40 000 à 60 000 spectateurs. En matière de Covid, les désirs de l'UEFA semblent plus importants que les inquiétudes de l'OMS qui remarque une hausse des cas aux abords de plusieurs stades comme à Saint-Pétersbourg à cause du variant Delta.
13h29 sur France Inter. Dans un instant, nous parlons des maisons de retraite un an et demi après le début de la pandémie.
Avec Radio France et le Tour de France, mettons du vélo dans notre quotidien. En France, 60% des déplacements font moins de 5 km, mais seulement 4% de ces trajets sont effectués à vélo. Nous sommes pourtant très nombreux à pouvoir mettre du vélo dans notre vie. Tentez l'expérience, vous ferez du bien à la planète et à votre santé. Vous gagnerez un moment rare et précieux, un moment qui rend tout simplement heureux. À vous de jouer. Avec Radio France et le Tour de France, mettons du vélo dans notre quotidien.
France Inter aime.
Les deux Alfred, le nouveau film de Bruno Podalydès.
Je sais même pas pourquoi j'ai été engagé, ni par qui exactement.
Mais c'est quoi le poste ?
Reacting Process.
Denis Podalydès, Sandrine Kiberlin et Bruno Podalydès forment un trio plongé dans une société ultra connectée, mais parfois déconnectée des questions humaines les plus élémentaires.
J'ai un message de ma voiture.
C'est une voiture autonome ?
Ça, c'est la nouvelle tendance. Quoi, je suis parti me brancher à la borne. Mais quelle borne ? Qu'est-ce que trop conne cette bagnole, hein ?
Les deux Alfred, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Il est 13h30.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duvic.
Elles ont été un des lieux majeurs de la crise, les maisons de retraite, les EHPAD. Alors que le nombre de personnes hospitalisées, le taux d'incidence du virus diminue continuellement, la vie normale a-t-elle complètement repris son cours dans les EHPAD ? La progression encore continue du variant Delta remet-elle cela en cause ? Doit-elle amener à une obligation de vaccination pour les personnels qui n'ont pas encore subi la piqûre ? Seulement 42% des personnels complètement vaccinés selon Santé publique France. Quels enseignements tire-t-on de la crise aussi ? Vous avez un proche en maison de retraite, vous y travaillez peut-être, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter rubrique réagir pour vos questions et témoignages. Notre invité jusqu'à 13h45 est la déléguée générale du CINERPA, le syndicat national des établissements, résidences privées et services d'aide à domicile pour personnes âgées. Bonjour Florence Arnaise-Momet.
Bonjour.
Est-ce que cette menace du variant Delta vous inquiète ? On voit ce foyer qui est apparu dans une maison de retraite des Landes.
Oui, absolument, ça nous inquiète beaucoup, ouais. Beaucoup, puisque évidemment avec un taux de vaccination qui n'est pas à son maximum, notamment vis-à-vis des salariés, eh bien, il y a un risque de retour du variant Delta dans les établissements, avec évidemment des risques majeurs pour la santé des résidents.
Pas de foyer repéré dans les maisons de retraite dont affilié à votre syndicat ?
Pour l'instant, non, mais évidemment, ça risque d'arriver dans les quelques semaines, voire quelques mois.
Alors, à propos de la vaccination, question de Gina au Standard de France Inter. Bonjour Gina.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Et je vous remercie de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Voilà, je vous appelle car maman, qui avait 95 ans, a été contaminée 2 mois après avoir été admise dans une maison de retraite, une EHPAD médicalisée. Et elle est décédée 2 mois après cette contamination, de façon très, très difficile. Donc, ce que nous avions appris, c'est que des campagnes de vaccination avaient été organisées au sein de cette EHPAD, à laquelle maman n'avait pas voulu participer, car elle avait entendu sur les ondes que plusieurs décès étaient dus à la vaccination, et elle pensait que la vaccination contre la grippe la protégerait. Et malgré toutes nos tentatives pour qu'elle se fasse vacciner, elle n'a pas voulu. Mmh. Voilà. Et donc... Je voudrais porter ce témoignage parce que je pense que si une action peut-être de pédagogie avait été organisée au sein de l'EHPAD avant la campagne de vaccination pour bien expliquer aux résidents les conséquences d'une contamination, peut-être que maman n'aurait pas été, ne serait pas décédée. Nous avions aussi appris que des soignants avaient été testés positifs. Voilà, je trouve que pour des soignants, c'est quand même quelque chose de très grave, même si la liberté de la vaccination existe en France. Quand on est soignant, on est là pour aider, on n'est pas là pour... même si les personnes ne savaient pas qu'elles oui. étaient contaminées. Mais les conséquences sont très très graves.
Merci, merci Gina pour ce témoignage. Florence Arnaise-Maumet, êtes-vous favorable à la vaccination obligatoire pour les soignants? Jean Castex a laissé planer la menace ce matin.
Oui, nous le demandons depuis le début. Hein. Nous avons toujours demandé, alors pour répondre quand même à l'auditrice, nous, les campagnes de pédagogie, nous les faisons depuis le mois de décembre. Nous avons été prévenus le 1er décembre que le vaccin arrivait le 27 décembre. Donc nous avons eu 4 semaines pour nous organiser. Nous avons vacciné massivement, avec un très bon taux de retour pour les résidents, massivement de janvier à mai quasiment. Donc nous sommes sur un très bon taux de vaccination auprès des personnes âgées. Certes, il y en a certaines qui ne le souhaitent pas ou qui ne le peuvent pas. De toute façon, même avec une double vaccination...
Qui ne le peuvent pas, pardon, pourquoi qu'ils ne le
parce
peuvent
qu'ils
pas
parce qu'ils ont des maladies, des pathologies qui empêchent la vaccination. Donc voilà, donc on a fait œuvre de pédagogie. On a eu un très bon taux de retour auprès des personnes âgées. Maintenant, évidemment, il faut que les salariés aillent plus loin dans la vaccination. On est toujours sur un taux de 50 à 60% de salariés vaccinés. Il faudrait qu'on puisse atteindre 80% de salariés vaccinés.
Défiance à l'égard du vaccin ou défiance à l'égard des pouvoirs publics dans ce refus de se faire vacciner de leur part?
Je crois que c'est un petit peu les deux. C'est vrai que la crise a tellement mal commencé en France et notamment dans les EHPAD, tellement mal préparée. Et les EHPAD n'ont pas été préparés à cette crise, malgré nos demandes. Nous avons fait des demandes de protocole très tôt, en fin février 2020. Nous avons eu des protocoles, voire même des masques, voire même des transferts hospitaliers, voire même des tests que fin mars, début avril. Donc oui, nous avons, et l'État a raté l'entrée dans la crise au niveau des EHPAD. Nous avons fait ce que nous avons pu. Pour autant, bien sûr, ça a généré une défiance à la fois des personnels, à la fois des familles et des résidents. C'est normal.
Comment convaincre ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, dont on imagine que voilà, ils sont assez résolus dans le fait de ne pas se faire vacciner? Comment les convaincre? Quel discours tenez-vous?
Alors ça progresse encore. Oui. La meilleure façon de convaincre, c'est les résultats que nous obtenons. Depuis 4 mois que la vaccination a commencé, nous avons eu une chute significative des contaminations, des décès. Donc ce vaccin fonctionne véritablement et nous sommes vaccinés intégralement avec le Pfizer qui a très peu d'effets secondaires. Oui. Donc nous continuons la pédagogie et donc le chiffre de salariés qui se vaccinent augmente quand même de semaine en semaine.
Question de Jean-Michel au Standard de France Inter. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez du Doubs.
Oui, j'habite dans le Doubs. Ma mère est dans un EHPAD public dans le département du Doubs. Dans cet EHPAD, le protocole limite le nombre de visites des familles à 2 semaines et avec prise de rendez-vous obligatoire. Hors Covid, le nombre de visites et leur durée ne sont pas limitées. Dans un département, ces règles contraignantes ont été revues, allégées, par exemple en Savoie, depuis le 9 juin. Alors je voudrais savoir pourquoi il y a des différences telles. Qui prend la décision d'un retour à la normale? 98 à 99% des résidents de l'EHPAD où ma mère a été admise sont vaccinés. Oui. Que la plupart des visiteurs sont aussi vaccinés, vu l'âge de la grosse majorité des visiteurs. Et je suis très surpris que le gouvernement n'a rien communiqué tout le mois de mai, alors que tout était planifié pour le 9 juin, le 21 juin, le 9 juillet pour les boîtes de nuit. Et rien, quasiment rien, sur les EHPAD.
Merci.
À part aujourd'hui, puisqu'il y a souci avec le retour d'un vaccin.
Merci Jean-Michel. Alors Florence Arnaise-Maumet, dans les maisons de retraite affiliées au CINERPA, est-ce que la vie normale a complètement repris?
Oui, globalement, elle a complètement repris. Ce que dénonce monsieur, il a raison de le dénoncer, parce que c'est tout à fait anormal. C'est tout à fait anormal. Il y a des protocoles d'assouplissement qui ont été mis en place, bien avant d'ailleurs le déconfinement de la population générale. Nous avons eu un premier protocole d'assouplissement le 12 mars et ensuite un deuxième le 13 mai et nous en attendons un qui doit justement se annoncer la reprise totale des visites sans condition.
Qu'est-ce qui reste comme limite encore aujourd'hui?
Eh bien écoutez, la seule limite c'est si on a 3 cas de Covid dans l'EHPAD. C'est la seule limite aujourd'hui. Sinon, normalement, les visites sont autorisées, elles sont autorisées en chambre, il n'y a plus de délai et de temps limité. Donc la situation que décrit le monsieur est tout à fait anormale et il faut la dénoncer.
Et il demandait qui décide. Ce sont les directions de chaque maison de retraite ou bien elles appliquent des consignes nationales, des consignes fixées par les agences régionales de santé? Qui décide ce protocole?
La consigne nationale est très claire aujourd'hui, c'est visite possible en chambre, sans limitation de durée, dans les espaces collectif également, dans les espaces extérieurs. Donc il n'y a pas de limitation, sauf évidemment si l'établissement a des cas de Covid en cours.
Est-ce que les règles sont les mêmes, que les personnes soient vaccinées ou pas ?
Oui, actuellement, justement, il n'y a pas de différenciation. D'ailleurs, elles peuvent sortir également dans leur famille, elles peuvent rentrer, il n'y a pas... Évidemment, on teste encore beaucoup, surtout sur les personnes non vaccinées. Mais globalement, il n'y a plus de limitation. Et nous attendons encore pour la semaine prochaine un protocole qui libère tout. Donc, il faut dénoncer, parce qu'effectivement, il y a trop d'établissements qui, peut-être par crainte, par angoisse, justement, de l'arrivée du variant, continuent de limiter trop les visites, et c'est anormal.
Martin Hirsch, le patron de la PHP, les hôpitaux de Paris s'engageaient cette semaine à ce que les soignants à la PHP puissent prendre 3 semaines de vacances consécutives. Est-ce que ce sera possible ? Est-ce que les soignants, les personnels dans les EHPAD auront droit à des vraies vacances cette année ?
Écoutez, bien sûr qu'ils auront droit à de vraies vacances. Maintenant, il est clair qu'il va falloir remplacer, que les tensions au niveau du remplacement de personnel sont très fortes post-crise, encore plus qu'avant. Et déjà, on était sur un secteur tendu en termes de remplacement. Donc oui, ça va être évidemment possible, mais c'est compliqué aujourd'hui de remplacer les personnels qui partent en congé.
C'est compliqué comme tous les ans ou particulièrement compliqué cette année ?
Tous les étés, c'est très compliqué. Tous les étés, c'est très compliqué. Alors, on va voir cette année si c'est encore plus compliqué. C'est vrai que l'année dernière, il y avait une forte mobilisation. Malgré tout, on était encore quand même traumatisés par la crise, mais entre deux. Et donc, c'est vrai que les gens ont été particulièrement présents. Les salariés ont été particulièrement présents. Aujourd'hui, ils ont besoin de vacances. Donc, évidemment, ça va être compliqué de remplacer. Mais c'est évidemment un droit aux vacances qui est nécessaire et fondamental.
Le journal Libération faisait état d'un baisse du taux d'occupation moyen des EHPAD il y a quelques jours, de 91% en 2019 à 82% en chiffre pour l'Île-de-France. Est-ce que vous constatez cela aussi, une moindre occupation des EHPAD ces dernières semaines, ces derniers mois ?
Alors, ça reprend justement, mais effectivement, ouais. En 2020, nous avons été empêchés de faire des entrées, c'est bien normal, pendant plus de 5 mois. Donc une année avec 5 mois où il n'y a pas d'entrée, où il y a eu quand même des taux de décès importants, même quand on a eu la possibilité de refaire des entrées, la vague 2 et la vague 3 est arrivée, donc très naturellement, nous n'avons pas pu faire des entrées comme nous le faisons habituellement. Donc bien sûr, il y a une baisse des taux d'occupation.
Mais vous ne le lisez pas comme une petite réticence à mettre ses proches en EHPAD ou à entrer dans un EHPAD, étant donné les mesures de restriction très sévères qui ont été prises.
Si, bien sûr, il y a eu à la fois l'effet crise et l'effet lié au fait que nous ne pouvions pas faire d'entrée, mais une fois que nous avons pu faire des entrées, bien sûr que les restrictions, et c'est bien compréhensible, ont empêché quand même beaucoup de personnes de mettre leurs parents en EHPAD, avec une crainte de ne pas pouvoir le visiter, visiter son père, visiter sa mère, évidemment que ça a joué.
Et vous pensez que ça va s'atténuer au fil des mois, cette crainte, ou qu'elle va encore rendre certaines familles réticentes, se dire on va essayer de prolonger à la maison plutôt que d'aller en maison de retraite.
Bien, c'est avec une liberté d'entrer et de sortir de l'établissement, très normalement, l'EHPAD est quand même un besoin. On y va parce que personne est particulièrement en perte d'autonomie, ne peut pas rester à domicile ou est très difficile à accompagner par sa famille. Donc très naturellement, les entrées vont revenir. Mais c'est vrai qu'il faut du temps, il faut de la certitude pour les familles, justement, que si elles placent leurs parents en EHPAD, le variant Delta, par exemple, ne va pas avoir des effets difficiles. C'est pour ça que nous demandons à ce qu'il y ait une obligation vaccinale pour l'ensemble des personnels.
La loi Grand Âge en préparation, Florence Arnaise-Maumet, qu'en attendez-vous ? Développer des liens avec l'hôpital, des liens plus étroits entre les maisons de retraite et l'hôpital, ça c'est une piste à creuser ?
Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, la crise l'a permis aussi, beaucoup plus de partenariats avec le secteur sanitaire. Pour autant, ce que nous attendons, c'est d'abord et avant tout plus de médicalisation dans l'EHPAD, plus de personnel soignant, des moyens supplémentaires pour pouvoir recruter plus de personnel soignant. C'est une demande qu'on avait déjà avant la crise et qui se renforce encore aujourd'hui. Donc plus de médicalisation, des EHPAD plus ouverts vers l'extérieur également, plus de services offerts à la population. Et puis surtout, nous attendons une véritable réforme de l'aide à domicile. L'aide à domicile a toujours été le parent pauvre de la politique grand âge en France. Et on voit bien que les Français veulent que veulent vieillir le plus longtemps possible à domicile. Et aujourd'hui, c'est totalement impossible parce que les montants d'APA, d'allocations personnalisées à l'autonomie qui permettent de rester à domicile, sont très faibles, très variables d'un département à l'autre. Les plans d'aide sont très restreints. Et donc, ça ne permet pas un accompagnement à domicile comme il le faudrait.
Il y a eu le quoi qu'il en coûte. Est-ce que les discussions que vous avez, j'imagine, pour préparer cette loi grand âge, vous laissent augurer que voilà, il y aura des moyens débloqués pour les maisons de retraite et pour l'aide à domicile?
Non. Pour l'instant, non. Très clairement, non. Justement, c'est la grande question qu'on se pose. On nous parle d'une véritable réforme de l'aide à domicile, de départements qui vont augmenter l'APA à hauteur de 22 euros de l'heure, sauf que les départements, aujourd'hui, ne sont même pas véritablement informés et nous n'avons pas l'impression que, voilà, que l'argent coule à flot de ce côté-là.
Merci Florence Arnaise-Momet, déléguée générale du CINERPA, syndicat des maisons de retraite privées, maisons de retraite et aide à domicile également. 13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre dans 10 minutes le vif de l'histoire. Monsieur Jean Lebrun, bonjour.
Bonjour Monsieur Duvic.
Il y a les régionales dimanche, il y a aussi les départementales, le deuxième tour.
Ben, on ne sait plus bien ce que c'est qu'un canton. Un canton, c'est quand il y a un EHPAD, ou bien deux, parce que chaque canton élit deux conseillers.
Bon, c'est noté. À tout à l'heure, dans 10 minutes. Avant ça, le feuilleton avec le retour des pots de départ chez les assistantes sociales de Trappes. Nous passons la semaine avec ces assistantes sociales pour mieux connaître leur métier. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le Tour de France, 108e édition, débute samedi en Bretagne. À cette occasion, un cycliste à votre micro. Aujourd'hui, il s'appelle Guillaume Martin. Il appartient à l'équipe Cofidis. Il était le premier Français au classement l'année dernière,
Guillaume
Martin.
Oui, il avait terminé 11e. Et cette année, m'a-t-il dit, le classement général ne sera pas sa priorité. Non, il vise des victoires d'étape en montagne. C'est un grimpeur. Guillaume Martin a 28 ans et certains le surnomment l'intello du peloton parce qu'il a obtenu un master de philosophie. Mais il est également assez calé en chansons. Il lui arrive d'ailleurs d'en écouter avec les coureurs de son équipe.
Dans le bus, avant le départ, avec mes collègues, on peut parfois un peu se motiver et brancher l'enceinte et mettre de la musique. On se fait des petits délires, chansons françaises nostalgiques. Enfin, on est une équipe internationale, donc on s'amuse aussi à faire découvrir les spécialités locales aux coureurs étrangers. L'an dernier, sur la Vuelta, le Tour d'Espagne, on a eu notre période désirless et on a écouté Voyage un peu en boucle avant chaque départ d'étape. Pourquoi pas? Après, moi, j'aime bien, de manière générale, tout ce qui est chansons à texte du répertoire français. Donc j'aime bien Georges Brassens, j'aime bien Barbara et Gainsbourg aussi.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
Et c'est donc le poinçonneur des Lilas que Guillaume Martin choisit de nous faire écouter.
Le premier succès de Serge Gainsbourg, qui n'était peut-être pas totalement insensible au cyclisme, figurez-vous, moins si l'on en juge, par l'histoire que m'a raconté Guillaume Martin.
Dans les années 80, il y a le président d'un petit club cycliste du département de la Manche qui avait son club en difficulté financière. Et un peu au culot, il a appelé Serge Gainsbourg, peut-être au fait de la réputation du personnage, et lui a demandé s'il pouvait pas lui donner de l'argent. Et étonnamment, Gainsbourg a dit « Oui, pas de problème, passe chez moi à Paris ». Et il est reparti avec un chèque de 100 000 francs, qui du coup a servi à évidemment faire perdurer ce club. Et donc depuis maintenant une petite vingtaine d'années, ce club organise dans la Manche une très belle épreuve amateur qui s'appelle, en hommage à Gainsbourg, la Gainsbar.
Course que vous avez courue?
Et non, et bien que je sois normand, en fait, j'ai jamais pu participer à cette course. C'est l'un des grands regrets de ma carrière.
Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit et sous mon ciel de faïence.
Mais alors pourquoi cette chanson-là? Pourquoi est-ce cette chanson de Gainsbourg que Guillaume Martin a choisie? Eh bien parce qu'il la trouve furieusement d'actualité et surtout parce qu'elle résonne avec ses propres interrogations.
Derrière son apparente frivolité, c'est un ton assez enjoué, cette chanson-là, Le Poinçonnier des Lilas, cache quelque chose d'assez noir qui est le suicide de ce poinçonneur. Donc les sujets dont elle parle, la faiblesse de l'individu face à une administration omnipotente, c'est quelque chose qui est peut-être de plus en plus présent, qu'on vit tous en ces temps de Covid, de télétravail. Il y a certainement beaucoup de poinçonneurs des lilas contemporains.
Elle raconte d'une certaine manière la souffrance au travail.
Peut-être même encore plus largement la détresse de l'individu face à une société qui peut être un peu oppressante. Faire des trous. Pourquoi on fait des trous? Pour moi, ça résonne aussi avec ma pratique de cycliste. Il y en a qui font des trous, moi j'appuie sur des pédales. Et pourquoi? C'est ça la grande question.
Vous savez pourquoi vous pédalez?
Moi, j'ai une théorie là-dessus. Pour moi, le sport et le cyclisme sont tellement absurdes que, justement, ça sert de réponse, de contre-attaque à l'absurdité de la vie. Par cette activité tout à fait triviale qu'est le cyclisme, finalement, je choisis de donner du sens à ce qui n'en a pas.
Un petit trou, un dernier petit trou, et on me mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
Le cycliste philosophe Guillaume Martin avec vous aujourd'hui, Frédéric, qui nous faisait écouter Le Poinçonneur des Lilas de qui déjà?
Monsieur Gainsbourg.
Ah, c'est ça, 13h50. Et dans le feuilleton, grâce à Mathilde Dehimi, nous passons la semaine avec les assistantes sociales de Trappes dans les Yvelines. Un clair-obscur aujourd'hui. L'obscurité, ce sont les assistantes sociales très marquées par la mort d'une de leurs collègues, Audrey Adam, le 12 mai dernier dans l'Aube, tuée par un octogénaire à qui elle rendait visite. Les visites à domicile, on en parle dans cet épisode. Mais d'abord de la lumière, de la bonne humeur dans l'espace territorial d'action sociale des Yvelines et des gâteaux aussi, parce que c'est le retour des pots de départ. Mathilde Dehimi, épisode 4 du feuilleton.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Caroline. C'est son pot de départ après 12 ans dans le service.
Un discours.
Ouais, j'avais pas commis de discours vu que je ne faisais plus de pot. C'est dommage. Je vous remercie à toutes. J'ai passé deux belles années sur le SAS. Voilà. Je vous quitte qu'à moitié parce que je pense qu'on retravaillera ensemble quand j'aurai pris mes nouvelles fonctions. Je vous laisse tranquille jusqu'à ce que je les prenne. Je vous laisse vous servir, prendre un petit... Pour ceux qui n'ont pas mangé, j'ai des crêpes. Les roses et sables, spécialement pour Anne.
Moi, je ne vous connais que depuis 2015. Vous êtes quelqu'un de confiance, vous êtes quelqu'un d'énergique, toujours de bonne humeur, prête à rendre service. Et vraiment, bravo à vous. Vous avez été une vraie perle professionnelle et je sais que vous le resterez. Et vous revenez quand vous voulez parce que vous êtes ici chez vous. Et encore un grand merci pour tout.
Je vous remercie. Ici, j'étais travailleur social, accompagnement social lié au logement. Que de la visite à domicile pour favoriser un maintien pour des personnes qui sont soit en procédure d'expulsion, soit un accès pour des personnes qui n'ont soit jamais accédé à un logement, soit des personnes qui ont déjà vécu une expulsion et qui ont du coup des petites difficultés pour accéder à un nouveau logement. Et c'est une mission extrêmement enrichissante. Pouvoir accompagner les familles dans l'ouverture des compteurs, l'aménagement, les accompagner à la mairie pour pouvoir faire les inscriptions à l'école s'il y a besoin, leur montrer où est l'état civil s'ils en ont besoin, les associations qui existent autour, le parc pour les enfants ou des anciens sans domicile fixe, enfin des choses comme ça. Effectivement, c'est tout un quotidien à réapprendre.
On est dans de la grande précarité, voire de la très grande précarité, j'imagine. On est dans de la grande précarité avec des personnes qui ont malgré tout beaucoup de ressources. Ça peut aller de 3 mois de suivi à 18 mois de suivi. En 18 mois, il se crée beaucoup de choses quand on va voir les gens 2 à 3 fois par mois à leur domicile, parce que malgré tout, on rentre chez eux, hein, c'est pas comme quand ils viennent au service. On rentre dans leur intimité, on rentre dans toutes leurs difficultés, parce que bah, y a pas tout le mobilier nécessaire, ils peuvent pas forcément offrir un café. Il y a pas de jugement, même s'il y a beaucoup de personnes qui ont peur quand on vient, et bah, les barrières elles peuvent tomber plus facilement, parce que
On va voir que c'est une famille de quatre et qu'il n'y a que deux lits. C'est ce qui permet aussi, plus rapidement, parce qu'on a un délai, de pouvoir essayer de trouver les leviers, les associations qui vont pouvoir aider de leur côté aussi à améliorer ce quotidien dans un logement qui n'est pas toujours adapté.
Aller chez les gens, c'est aussi parfois s'exposer seul à une certaine défiance, agressivité, voire violence. Comment vous percevez ça alors qu'on a appris très récemment que l'une de vos collègues avait été tuée, a priori, par la personne chez qui elle se rendait?
Moi, j'essaye de ne pas y penser. Moi, je demande toujours, quand c'est des personnes qui sont connues du secteur, si effectivement il y a déjà eu une forme d'agressivité ou de violence verbale. À partir du moment où on me dit non, je fais confiance à mes collègues et il n'y a pas de souci. Dans certains quartiers, j'y vais pas en fin de journée. J'ai toujours mon portable avec moi. Et puis effectivement, ça m'est arrivé une fois de me sentir en insécurité en visite à domicile. Je ne suis pas restée. J'ai vu que ce jour-là, la personne, elle n'était pas en capacité. Je ne me suis même pas assise. Je suis restée 10 minutes, je suis repartie. Et il faut que ça reste en tête, effectivement. Je ne peux jamais savoir ce qui peut se passer.
Le feuilleton Une semaine dans la vie des assistantes sociales de Trappes, signé Mathilde Dehimy, dernier épisode demain.
France Inter, le 13-14.
Et dimanche, second tour des élections régionales, mais aussi départementales, nettement moins médiatisées. Jean Lebrun, c'est vrai que l'unité de compte, disons-le comme ça, pour ces élections est devenue difficile à repérer. Question, jeu de mots, à la cantonade, qu'est-ce qu'un canton aujourd'hui?
Ah, et ben, je ne faisais jamais de leçons d'instruction civique quand j'étais prof, c'est le moment ou jamais. Gambetta a été le père fondateur de la Troisième République. Et ben, il affirmait en 1881 que le canton, c'était l'unité de base de l'administration française. Et il a existé dès 1789, donc avant même le département qui n'apparaît que l'année suivante. Il est vrai qu'il n'a pris de la consistance que lorsqu'un chef-lieu est devenu identifiable à la pointe de chaque canton. C'est au chef-lieu de canton que se déroule à Pâques 1848, la première élection au suffrage universel, les hommes seuls, convergeant de tous les villages à la ronde. Au chef-lieu de canton, on trouve à coup sûr un notaire, un percepteur, voire un collège, et surtout une gendarmerie. Napoléon III y tenait beaucoup, davantage qu'au libre suffrage. Au chef-lieu de canton se tient le marché, la foire, alors que le comice agricole, n'est-ce pas Bruno, est souvent itinérant de bourg en bourg. Tenir la foire, c'est un enjeu politique de première bourre. Est-elle le domaine réservé des paysans, des commerçants? Peut-elle être prise par les hors-venus, etc.
Bon, ben, vous n'êtes pas si mal en éducation civique. Les conseils généraux, comme on a dit longtemps, sont composés par les élus des cantons.
Et les lois de fer de décentralisation 1982 ont marqué leur zénith. Et les présidents de conseil général purent alors exiger de partager les bâtiments d'État d'apparat avec les préfets quand ils ne se construisaient pas de grands hôtels du département avec des succès esthétiques divers. L'un des plus réussis, je tiens à le dire, c'est celui de la Haute-Loire, commandé par feu Jacques Barrault, parce qu'il faut citer Barrault au Puy-en-Velay, Vauquier ne parle plus jamais de son ancien mentor. Alors à cette époque, déjà la question se posait de la représentativité des conseils généraux. Ne risquait-il pas de ne témoigner que de la ruralité? L'administration pense à répondre en multipliant la création de nouveaux cantons urbains. Au début des années 2010, on a dépassé le total de 4000 cantons. Mais quel sens a un canton qui a été découpé à la rue près dans le tissu vif d'une ville importante, a fortiori d'une métropole? Le choix va finalement être fait de conserver le département. Un choix consécutif aurait pu être de le faire diriger par des délégués issus de la région et des intercommunalités, suffrage universel indirect donc, mais pour maintenir le suffrage direct, jugé plus démocratique, vous suivez toujours. Hein.
Oui, oui.
On a maintenu l'élection par canton, mais Frédéric Pommier, plus les mêmes. Il n'y a plus que 2000 cantons et quelques. Et dans chaque canton est élu un binôme, un homme et une femme, shabadabada, un système unique au monde.
À peine plus de 2000 cantons, donc qui correspondent à quoi?
Ah bah rien qu'on connaisse, hors les deux dimanches de vote. Les anciens chefs-lieux de canton ont été supprimés. Les anciens cantons, vous suivez toujours,
oui, les 4000.
Ont été refondus. Alors, par exemple, dans l'Isère, j'ai cherché mon ancien canton, Alvar, qui coïncidait avec une vallée naturelle. Bah, ça a été absorbé dans le Haut Grésivaudan. À ne pas confondre avec le Moyen Grésivaudan et le Sud Vas-y, Vaudan. Les nouveaux cantons qui servent de cadre à l'élection de dimanche ne coïncident même pas nécessairement avec ces intercommunalités de toutes espèces que les sourciers de l'administration font surgir et ressurgir depuis quelques années. Ce sont, à proprement parler, des chimères. Enfin, on parle de chimères pour les créatures de sexe indéterminé. Ici, nous avons au moins, Shabadabana, un homme et une femme. Et puis le binôme a l'avantage d'assurer non seulement la parité, mais des alliances pastelles dès le premier tour. Les candidats du binôme peuvent être de couleurs différentes et les deux élus peuvent ensuite voter au conseil départemental comme ils veulent. Je vous dis, c'est unique au monde. Alors, je tentais d'expliquer ça plus clairement à une amie l'autre soir et elle conclut, mais alors, ce sont les binômes qui élisent les sénateurs. Alors, ma leçon n'était peut-être pas très claire, je peux tout recommencer si vous voulez.
Jean Lebrun, on fait une spéciale semaine spéciale canton dans le vif de l'histoire la semaine prochaine pour avoir tous les détails. Merci beaucoup. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, quel programme ?
On va s'intéresser à la finance verte.
À tout de suite.
Bouygues Télécom. David, Daniela et leurs enfants déménagent de Dieppe à Dijon. Et à cette occasion, ils désirent doter leur nouveau domicile de la fibre, sans trop dépenser. Eh bien, David et Daniela, nul doute, cette offre vous est dédiée.
En ce moment, chez Bouygues Télécom, la fibre est à 15,99€ par mois pendant un an, puis 29,99€ par mois avec Bbox Fit. Et oui, la fibre à 15,99€ seulement. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement. Engagement 12 mois.
Le 13-14, un grand merci à Sarah Guibaudot, à la rédaction en chef, Alexandra Brouillet, assistante à la technique aujourd'hui, Clément Berman et Michel Bézikian. Et voici les tops, il est 14h.